Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Nous connaissons bien l'expression biblique, le célèbre passage de l'Évangile qui déclare « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Mais être appelé, être élu, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens de ces mots? Qui sont les appelés et qui sont les élus? Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel, notre Père suprême, souhaite que ceux qu'il a appelés, effectivement, ce qu'il a appelé à se détacher de ce monde pour venir dans son Église, la véritable Église de Dieu, que Jésus-Christ a bâtie, notre Père éternel souhaite que ses appelés deviennent aussi ses élus. Christ a promis qu'il reviendrait en personne sur cette terre. Et la Bible déclare effectivement que le jour de son retour, une multitude de personnes l'accompagnera. En effet, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et au verset 14, dit en effet ceci. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui. Les appelés, les élus et les fidèles. Ces trois mots définissent en fait qui sont les véritables saints, les véritables chrétiens de Dieu. Chacun de ces mots a une signification précise pourtant. Il est donc important de savoir ce que signifie, bibliquement, être appelé, être élu et être fidèle. Alors tout d'abord, qui sont les appelés? Dans le grec, dans la langue du Nouveau Testament, le mot « appelé » est le mot grec « kletos ». Kletos. Ce terme est apparenté au nom « klesis » qui signifie « appel » et il est employé spécialement pour décrire l'invitation que Dieu envoie à l'homme d'accepter les avantages du salut, selon le dictionnaire Vine. Il est intéressant de noter qu'il y a des similitudes existant entre ce mot et le mot grec qui désigne l'Église, ecclesia, qui signifie ceux qui sont appelés, ceux qui sont désignés. L'Église est composée de ceux, effectivement, qui sont invités par Dieu à comprendre son plan, à changer aussi, évidemment, de comportement, nous le savons, c'est-à-dire à se repentir de leurs péchés et à recevoir son Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, sa puissance d'obéissance et de compréhension. Il importe de bien comprendre que quand Dieu appelle quelqu'un, eh bien, c'est un acte divin, c'est un acte qui vient que de Dieu seul. Lui seul décide d'appeler ou d'inviter telle ou telle personne. Cet état de fait est absolument clair lorsque nous lisons ce passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 44, passage que nous devrions connaître par cœur et qui nous dit « Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Il s'agit donc d'une décision clairement divine. Mais basée sur quoi? La question est posée. Il existe un certain nombre de passages bibliques qui parlent de l'appel du chrétien. Dans son épître aux Romains, par exemple, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, donc, et il les appelle ainsi. Il écrit « Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ ». Et il précise qu'ils sont les bien-aimés de Dieu, les saints par vocation, ou encore les saints en vertu de leur appel, dans la version de la Bible annotée, ou dans la version Osterwald, il les appelle ceux qui sont appelés et saints. De quelle façon le chrétien doit-il aussi être appelé? De quelle manière? L'apôtre Pierre dit que Dieu est celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend place au moment de l'appel, il y a une clarification des choses. Cela veut dire être appelé, effectivement, à sortir de la confusion ambiante, la confusion des faux enseignements si répandus dans ce monde au sujet du christianisme, pour se mettre sous la lumière de la vérité divine réelle. C'est une grande bénédiction, c'est un privilège, un bienfait merveilleux. Néanmoins, pour être un saint, attention, il ne suffit pas d'être appelé, d'après la Bible. Nous devons répondre à cet appel, cette invitation, effectivement, par une attitude appropriée. un changement de comportement dont je parlais. Il est requis, ce changement, pour produire à bien des égards une conduite positive. Et surtout, en commençant par lire la Bible, en commençant par véritablement se renseigner au sujet de ce que Dieu nous demande et à comprendre sa Bible. C'est une invitation de la part de Dieu qui n'est pas une invitation vaine, elle est remplie de sens, et Dieu nous donne les moyens de comprendre. C'est alors que nous réalisons que nous ne savions pas à quel point il nous fallait changer tel ou tel comportement. Et nous en venons à comprendre ces choses précises. Des comportements qui, visiblement, ne plaisent pas à Dieu. Ils ne plaisent pas à Dieu parce qu'ils vont à l'encontre de sa loi d'amour, sa loi qui nous garantit effectivement un bon comportement, non seulement vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de notre prochain. Ainsi, pour être élu, une personne doit d'abord accepter son appel. Elle doit être reconnaissante d'avoir été appelée. Et pour aller ensuite de l'avant, bien sûr, pour se soumettre à Dieu et pour se soumettre à son Fils Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'appel, souvent les Français se souviennent de l'appel du 18 juin. Et à juste titre. En effet, rappelez-vous, en juin 1940, le général de Gaulle prononce à Londres ce fameux appel, ce célèbre appel du 18 juin. Et à l'époque, peu de Français ont entendu cet appel. La plupart de ceux qui ont décidé de prendre, à la suite de cet appel, la route de Londres, la route de l'Angleterre, et de rejoindre la France combattante, étaient de jeunes hommes, sans expérience militaire pour la grande majorité d'entre eux, de futurs fantassins, des aviateurs, des marins, ayant tout à apprendre. Le chrétien, de manière similaire, est appelé par Christ. Et oui, c'est un peu la même chose. Il y a aussi là beaucoup à apprendre, beaucoup à apprendre. Qui sont ensuite les élus, selon Jésus-Christ? Le mot grec traduit en français par élu est eklektos. Eklektos, un mot qui signifie celui qui est désigné, celui qui est sélectionné ou qui est élu. C'est Dieu qui appelle et c'est lui aussi qui choisit et qui fait de cette personne appelée un élu. Mais une fois que cette personne est appelée, justement, elle doit aussi prendre une décision. Et cela joue un grand rôle. Elle doit réaliser que c'est son devoir, effectivement, de répondre à cet appel. En effet, si elle ne répond pas à cet appel, il n'y a aucune chance qu'elle devienne une personne élue. C'est, en quelque sorte, ce qui va la motiver en soi de répondre à cet appel, cette flamme patriotique qui se ranime dans son cœur, qui lui rappelle qu'il y a cette meilleure patrie, cette patrie céleste, le royaume des cieux, qu'il appelle par la voix du Père éternel, manifestée en elle. Cette voix intérieure, puissante, douce, qui va motiver la personne, qui va l'appeler donc à agir en conséquence et à répondre à l'appel de Dieu. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous trouvons un passage dans lequel l'apôtre Paul non seulement confirme le premier verset que nous avions vu, Jean 6, 44, mais en plus, il dit que c'est effectivement, il confirme clairement que c'est Dieu qui choisit, qui non seulement appelle, comme nous l'avions vu, mais c'est aussi lui qui choisit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, dit ceci, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Ainsi, une fois choisis par Dieu, une fois que nous avons compris que Dieu nous a lancé cet appel, nous, les membres de l'Église, la Bible nous appelle les saints, oui, nous devons continuer de nous accrocher à ce que nous avons appris et continuons d'apprendre en lisant la Bible, en lisant aussi les publications que nous offrons gratuitement, le magazine Discerner, Les textes explicatifs que nous publions sur notre site Vie, Espoir et Vérité vous aident, nous aident à étudier la Bible, à comprendre la vérité de Dieu. Et donc vous les trouverez en lien sur ce site. Toutes ces aides, toute cette littérature, en fait, nous procure des soutiens prodigieux pour comprendre la Bible et il traite de pratiquement tous les thèmes, toutes les questions que vous pourriez vous poser dans la vie chrétienne. Oui, notre devoir de chrétien est de nous accrocher à ce que nous avons appris et continuons d'apprendre en lisant la Bible, cette fondation sûre, afin de devenir obéissant envers Dieu et afin de le rester. Cela est précisé dans Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, Éphésiens 1, 13, où Paul écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » C'est le processus de toute une vie, une conversion. Et parfois, l'appel même arrive tard dans la vie, et même parfois très tard. Souvenez-vous du voleur repentant, crucifié aux côtés de Christ. Il avait compris que Jésus était sans péché, qu'il était innocent. Et on voit d'ailleurs la différence dans le texte entre les deux voleurs, celui qui est repentant et celui qui ne l'est pas. L'esprit de l'un, en effet, reste fermé à la compréhension de la vérité quand l'autre voleur est prêt pour le repentir, il est prêt pour le changement. C'est un repentir, effectivement, puisqu'il est mort quelques instants après, un repentir qu'il aura l'occasion de mettre en œuvre après sa résurrection, comme Christ l'a promis, dans le royaume de Christ. Mais pour nous, une fois que nous avons entendu la parole de la vérité, il nous faut prendre effectivement une décision. Nous devons faire confiance à Dieu, nous devons croire en son Fils, et puis nous devons, comme le disait l'apôtre Paul, être scellés du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous est communiqué une fois que nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons compris qu'il nous fallait changer, nous commençons donc à changer, que nous avons la foi, nous croyons vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que nous devons suivre ses instructions. Nous ne pouvons pas nous contenter d'accepter effectivement le merveilleux appel divin sans rien faire et de continuer à vivre eh bien, à notre guise en faisant ce que bon nous semble. Non, nous avons compris quelque chose de nouveau. Nous pouvons et nous devons être partie prenante de ce processus de changement afin, comme l'apôtre Pierre le dit dans sa première épître au premier chapitre au verset 2, 1 Pierre 1, 2, il dit « Afin que vous soyez élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin de devenir obéissants et de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Donc nous comprenons ce que veut dire le sacrifice de Jésus-Christ, être divin qui s'est fait homme pour accepter de mourir pour nous, pour toute l'humanité, pour tous ceux qui l'a jamais créé. Les appelés et les élus doivent demeurer fidèles. Ils doivent continuer de croire, d'obéir et de se fier à Dieu activement. Les appelés, pour être élus, ont aussi besoin de persévérer fidèlement. Ce n'est pas gagné. Il faut toute une vie pour continuer ce processus fidèlement, dans les bons moments comme dans les mauvais. Paul, l'apôtre, a clairement expliqué quelles sont les responsabilités des appelés. Reportons-nous dans Colossiens, son épître de donc Paul, apôtre, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3 et verset 12. Colossiens 3, 12. Il dit ainsi, donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, voilà les choses qu'il faut changer. Supportez-vous les uns les autres aussi, et supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Voilà notre feuille de route. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, l'Église, règne dans vos cœurs. Et, dit-il, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Rendez-vous compte du privilège que cela représente. Très peu de gens qui se prétendent chrétiens aujourd'hui comprennent que les vrais disciples du Christ n'observent pas le repos dominical, le repos hebdomadaire du dimanche, mais ils observent, comme Christ, comme les apôtres, comme les disciples du premier siècle, le repos d'assemblée du samedi, le sabbat. Exactement comme Jésus le faisait. Et ce n'est pas tout. En plus des 10 commandements, puisque le repos du sabbat est dans les 10 commandements de la Bible, ils observaient aussi les fêtes de Dieu, la Pâque et la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. Ils n'observaient pas les Pâques grégoriennes, les Pâques païennes, en l'honneur de la déesse Vénus, une déesse païenne, la déesse de la fertilité, que les petits œufs et les lapins représentent. Vous voyez, tous ou presque nous aimons le chocolat, oui, c'est très populaire, et nos chocolatiers, je ne les blâme pas, ils font des œuvres spectaculaires, magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres. Le seul problème, c'est que ces œufs, ces lapins en chocolat, sont des objets païens, qui font référence à des fêtes païennes. Alors certainement très colorées, très festives, mais païennes, et c'est le problème. Autrement dit, des choses que Dieu déteste. Nous ne pouvons pas nous permettre d'observer ce genre de choses. Nous ne pouvons pas nous permettre d'irriter Dieu une fois que Dieu nous a appelés. Oui, ce sont des choses que Dieu déteste. Il a dit, Jésus-Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira, elle vous sortira de l'esclavage du péché. » Et il est dit aussi dans l'Évangile selon Matthieu, c'est Jésus-Christ qui parle une nouvelle fois, il dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi. » Donc il faut choisir son camp. Ou on choisit le camp de l'adversaire, de l'ennemi de Dieu, ou on choisit le camp de Dieu, le camp de Jésus-Christ. Dans notre choix, nous faisons, souhaitons-le, le bon, car ce choix est clair, il n'est pas obscur. Ou bien nous cherchons à faire ce qui fait plaisir à Dieu, ou bien nous continuons de l'irriter. Donc il faut comprendre ce qui irrite Dieu. Et il faut aussi comprendre ce qui fait plaisir à Dieu. Ou bien nous collaborons avec l'Empire du Mal, et là encore je fais référence à la Seconde Guerre mondiale, l'Empire du Mal, l'Empire du paganisme, c'est la même chose. Ou bien nous entrons en résistance contre l'Empire du Mal. Nous allons à contre-courant de l'occupation, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. Effectivement, les similarités continuent. Cela veut dire que nous sommes prêts à perdre ce que nous avons, la vie peut-être, mais avant cela, déjà, la renommée, la richesse, la gloire, tout ce qui est recherché par ce monde. Autrement dit, des choses temporaires, des choses même qui sont vaines, qui ne mènent à rien en elles-mêmes. Elles sont certes prévues par Dieu, mais dans un cadre juste. Nous cherchons ce cadre juste. Premièrement, la justice du royaume. Non, ce n'est pas donné à tout le monde, et je reprends encore l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, rappelez-vous, il était beaucoup plus facile d'être un résistant de la dernière heure, de porter le brassard des FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, rapidement mis alors que Paris se vidait de ses occupants, et que les troupes américaines et françaises, tout d'abord, les premières troupes françaises faisaient leur irruption dans la capitale et commençaient les derniers combats avec les Allemands dans Paris. Être un compagnon de la libération, un compagnon de la première heure, souffrant la torture, souffrant les difficultés, ça c'était autre chose. C'était réservé à des hommes de caractère choisis. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas rejoindre cet héroïsme. Au contraire, Dieu nous donne la force, et j'y reviendrai. Cela fait toute la différence. Tout ce qui nous manque, aussi faibles soyons-nous, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais attendez, vous parliez d'œufs en chocolat, de petits lapins. Vous plaisantez, j'espère. Non, je suis sérieux. Bien sûr, ce sont juste des petits œufs de Pâques, des petits bonbons, des trucs en chocolat de toutes les couleurs. Ah oui, c'est vrai. Et alors? Et alors? Ce sont des objets dont la tradition païenne remonte à l'Égypte ancienne, à un pays qui était polythéiste, qui adorait des idoles, qui irritait Dieu. Relisez le livre de l'Exode, en particulier à partir du chapitre 12, et vous verrez tout ce qui est arrivé à Israël et tout ce qui est arrivé à l'Égypte lors du fameux épisode des 10 plaies d'Égypte. À quel point Dieu a démontré que lui seul, est le Dieu qui mérite d'être adoré, que toutes ces divinités païennes ont été vaincues les unes après les autres, aux yeux même des Égyptiens. Toutes ces tromperies ont égaré les gens pendant des siècles, et non seulement à Babylone, en Égypte, à Rome, dans la Grèce antique, mais dans toute l'humanité entière. Elles n'ont pas égaré, en revanche, ceux que Dieu a appelés, ceux auxquels Dieu a donné son Saint-Esprit, son esprit de clarification, de vision de la vérité et de force. Et parmi ceux qui nous écoutent sur ce site, il y a ceux qui savent qu'ils ont été appelés, et puis il y a ceux qui se demandent s'ils sont appelés. Eh bien, je suis sûr que vous vous posez des questions, je suis sûr que vous voudriez en savoir plus. Eh bien, pour en savoir plus, rien n'est plus facile. Par exemple, en s'inscrivant à notre cours de Bible, qui est indiqué un petit peu plus bas sur cette page, en lisant nos articles sur une multitude de sujets de la vie. Le désir de vouloir en savoir davantage, en savoir plus sur le plan biblique, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe qui ne trompe pas, surtout si cette soif de savoir devient prioritaire. On est presque avide de vouloir connaître la Bible. C'est un signe de l'appel de Dieu. Cela ne fait aucun doute. Souvenez-vous de la parabole de l'homme qui découvre dans un champ une perle de grand prix et qui fait tout. Il fait tout pour acquérir ce champ qui ne lui appartient pas. La perle ne lui appartient pas non plus. Il l'a trouvé, oui, mais il l'a trouvé dans le champ. C'est une parabole explicite. Imaginez l'enthousiasme de cet homme. Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ et pour pouvoir, évidemment, revendiquer la propriété de cette perle. L'appel de Dieu démontre exactement le même sentiment. C'est un désir de s'investir dans l'étude de la parole de la vérité. Les appelés, les élus et les fidèles. Alors, qui sont les fidèles? Cette troisième catégorie. Dans le grec, être fidèle, c'est être pistos, c'est le mot grec. Et il peut être traduit de deux manières, il peut vouloir dire être digne de confiance, ou bien aussi être actif avec l'idée de se fier à quelqu'un. C'est l'explication donnée par la traduction du dictionnaire Vine, grec-anglais. Contrairement à certaines déclarations célèbres, les vrais chrétiens ne sont pas des infidèles. Ils étaient traités ainsi dans le premier millénaire, mais au contraire, ils sont fidèles. Ils sont fidèles à qui? À Dieu, bien sûr. Ils sont fidèles à sa parole, la Bible, qui a été scellée depuis le premier siècle de notre ère. Ensuite, leur foi est constante. Ils persévèrent dans l'obéissance à Dieu. Ils continuent de se fier à lui. Ils lui sont fidèles et ils persévèrent dans les bons moments comme dans les mauvais. C'est cela, être chrétien. L'espérance de ceux qui sont appelés et de ceux qui sont élus, c'est d'hériter la vie éternelle lors de leur résurrection. Et cette confiance, cette foi, sont fermement ancrées en eux. Paul, apôtre, a rappelé à Timothée, l'ancien, ceci dans sa lettre, c'était un jeune ancien. Il lui dit « Combat le bon combat de la foi » dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Il lui écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Nous sommes appelés à combattre le bon combat et à saisir la vie éternelle. Et puis la Bible abonde, bien sûr, en exemple de fidélité de la part du peuple de Dieu. Souvenez-vous du chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, ceux qui décrit ceux qui attendent l'instauration du royaume de Dieu. Dans ce chapitre, un certain nombre d'hommes et de femmes, de foi, y sont décrits, et en dépit de leurs rudes épreuves, ces hommes et ces femmes se sont confiés en Dieu. Ils ont gardé les yeux fixés sur l'avenir. Ils étaient appelés, ils devinrent des élus, et ils avaient cette fidélité. Ils avaient cette grande foi qui vient de Dieu, encore une fois, et qu'il nous faut donc demander si nous voulons l'avoir. Il faut demander la foi. Il faut aussi vouloir, bien sûr, l'acquérir. Elle est capitale. Et il faut vouloir la garder, cette foi. Donc nous avons besoin de demander la foi plus d'une fois. Il nous faut répéter cette demande. Il faut avoir présent à l'esprit que nous avons besoin de cette foi. Et les événements de la vie nous montreront que nous aurons besoin de foi. Appelés, élus et fidèles. Voilà la vocation du chrétien. Alors bien sûr, cette vocation, nous sommes appelés à l'affermir. Affermir la vocation et affermir l'élection du chrétien. Et l'apôtre Pierre a rappelé dans sa seconde épître aux membres de l'Église à quel point ils devaient prendre leur appel au sérieux. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le premier chapitre, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 11. Il leur dit, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Verset 10, j'aurais dû commencer là. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Donc, un affermissement de notre vocation et de notre élection est nécessaire. Et il ajoute donc, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quel but merveilleux! Donc il y a le but, mais aussi le moyen pour y parvenir. Il sous-entendait, Pierre, que notre appel ne doit pas être négligé. Il nous faut faire ces efforts. Et précédemment, au verset 4, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part, verset 4, les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et Pierre ajoute au verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quelle merveilleuse bénédiction! C'est un formidable encouragement que nous recevons ici, sous la plume de l'apôtre Pierre, au moyen de son Saint-Esprit. Dieu nous donne ce consolateur. Il nous donne ce tuteur, cet enseignant qui nous aide, qui marche avec nous, à condition bien sûr que nous marchions avec Dieu. C'est évident. Et dans sa première épître, au chapitre 5, verset 10, 1 Pierre 5, 10, nous lisons ceci, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Vous rendra inébranlable. Ainsi Dieu œuvre et il ouvre l'esprit de ceux qu'il appelle à la compréhension de sa vérité, de la vérité. Il leur donne aussi la force, la motivation, la curiosité, le désir d'aller de l'avant et de lui obéir. Car lui seul a la sagesse suprême. Il veut que nous lui demeurions fidèles, une fois appelés, afin de devenir définitivement ses élus, un jour. Alors oui, la vie dans ce monde n'est pas facile, c'est évident, nous le voyons bien, mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Assurons-nous que nous faisons le nécessaire pour être non seulement des appelés, mais aussi des élus et des fidèles. L'appel de Dieu est subtil. Il est très subtil. Il est plus subtil qu'un simple appel téléphonique. Imaginez en effet que votre téléphone vibre tout d'un coup, là, maintenant, et affiche Dieu. C'est Dieu qui vous appelle. Et il vous dirait, bonjour Jean, bonjour Isabelle, je te connais bien, je sais que c'est le moment pour toi de me suivre, de changer ta vie, j'ai un travail pour toi, un emploi, et je sais que tu peux le faire bien, je t'aiderai, je serai toujours avec toi. Si tu le fais bien, eh bien, je peux te garantir que tu ne le regretteras pas. Je ferai de toi un leader, je ferai de toi un conseiller, un juge et un souverain. Un souverain. Je te donnerai un territoire dans mon royaume. Dans ce territoire, tu auras des villes. Et dans ces villes, tu auras des familles dont je te demanderai de prendre soin. Et tout cela, tu auras ces choses dans une prospérité sans fin. Alors, Jean, Isabelle, êtes-vous prêts à me suivre? Bien sûr, l'appel de Dieu ne se déroule pas de cette façon, nous le savons bien. Et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Cela ne marcherait certainement pas, probablement parce que nous penserions évidemment à un canular. Comme je le disais, l'appel de Dieu est beaucoup plus subtil. Le véritable processus de l'appel divin, il est bien plus intense qu'un simple appel téléphonique d'ailleurs. Il est bien plus profond aussi. Il est vraiment dans le cœur de l'homme. Par contre, dans les termes et dans les promesses que je venais juste d'énoncer, c'est exactement cela. En voyant, vous savez, en voyant la beauté du monde, un enfant comprend que Dieu existe. Un enfant comprend que Dieu existe en voyant les animaux, la beauté de la nature. De même, en lisant la Bible, en lisant le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, un adolescent voit bien que, pour peu qu'il soit éveillé, comprend que la Bible, c'est bien le message de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais encore une fois, je le dis bien clairement, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui ouvre l'esprit à la vérité. On ne peut pas décider de soi-même de devenir un chrétien, disciple de Christ. Alors, on peut essayer, bien sûr, c'est même d'ailleurs fortement recommandé. Bien sûr, c'est tout à fait honorable de vouloir suivre les enseignements de Christ, absolument, de vivre chrétiennement. Et c'est Dieu qui appelle ses brebis. C'est Dieu qui l'appelle. Il n'appelle pas tout le monde aujourd'hui, tout de suite. En revanche, tout le monde, un jour, tout le monde, un jour lointain, dans le futur, tout le monde sera appelé. C'est le plan de Dieu. Et en comprenant cet aspect particulier du plan de Dieu, nous comprenons que c'est extrêmement encourageant, finalement, de savoir que tous ceux qui sont morts sans avoir été appelés par Dieu, de toute nation, de toute langue, de toute époque, dans l'histoire du monde, toutes ces personnes seront un jour appelées par notre Père, par notre Créateur suprême. En particulier, pensez à votre famille, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. L'avenir immédiat, c'est vrai, paraît vraiment sombre, paraît difficile, inextricable. Mais ce n'est que temporaire. L'avenir qui suivra sera absolument brillant, sera splendide et vraiment, d'après ce que nous lisons dans la Bible, tellement joyeux. Au-delà de nos émotions les plus fortes, un merveilleux avenir est promis à toute l'humanité. Parmi les exemples et les paraboles exprimés dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous comprenons que les appelés doivent choisir de revêtir un véritable habit de noces. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'expression « il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » provient en fait de cette parabole. Une parabole une parabole, c'est une leçon spirituelle cachée. Une parabole est un récit qui contient cette leçon. Et justement, Jésus l'a enseigné, cette parabole, pour illustrer la venue du royaume de Dieu. Il la cite, c'est la parabole des noces, dans laquelle il nous est dit qu'un roi fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, donc, appeler ceux qui étaient invités aux noces. Trouvons cette parabole dans Matthieu chapitre 22, Évangile selon Matthieu chapitre 22, versets 2 à 3. Matthieu 22, 2 à 3. Alors, dans cette parabole, dans cette histoire, que s'est-il passé vraiment? Donc, il y a des noces et les premiers invités au mariage ont rejeté, ils ont rejeté l'offre d'invitation. Versets 3 à 6, ils ne voulurent pas venir. Ils ont refusé l'invitation. Et donc, en conséquence, le roi a décidé d'envoyer finalement ses serviteurs. Il leur dit, allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux que vous trouverez. Verset 9. En conséquence, la salle des noces fut pleine de convives. Verset 10. Donc une formidable réussite au final, ces noces peuvent être organisées. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas tout à fait dans le bonheur complet. Il y a malheureusement une face un peu triste, et cette face triste, la voici, le roi a découvert que l'un des invités était arrivé sans habit de noces, et les mots grecs dans le texte original suggèrent qu'il s'agissait de sa part, de la part de cet invité, d'un choix délibéré. Il a volontairement refusé de revêtir un habit de noces. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un choix intentionnel, un choix délibéré. En venant donc au mariage en tenue ordinaire, l'invité usait directement de provocation. Provocation envers le roi, envers son fils et envers son épouse. En réponse, le roi a ordonné que l'invité soit ligoté et qu'il soit jeté, nous est-il dit, dans les ténèbres du dehors. Verset 13. Et c'est ici que Jésus a précisément conclu la parabole, notez bien, en rappelant ces mots célèbres à tout son auditoire. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc nous comprenons, nous voyons donc qu'être appelé ne signifie pas automatiquement être élu, déjà, avec cette déclaration. Dès l'appel, il nous faut croire ce que Dieu dit, et il nous faut être digne de cet appel. Il nous faut faire notre part. Il faut comprendre, il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour le servir, lui, Dieu, pour faire ce qu'il nous demande de faire, en particulier ce changement de comportement. Ce changement de comportement. Nous devons commencer à transformer notre vie. C'est d'ailleurs le titre d'une brochure que nous vous proposons gratuitement. Transformer votre vie. La parabole du semeur est une autre parabole et elle décrit elle aussi l'appel de Dieu. Reportons-nous dans Matthieu chapitre 13, verset 3. Nous allons lire le début de cette parabole. Matthieu chapitre 13 et le verset 3. Jésus parlait en parabole sur de nombreux sujets. Nous pouvons le lire à travers le Nouveau Testament et les évangiles. Et il invoquait donc cette autre parabole sur le thème de l'appel de Dieu, la parabole du semeur, qui commence au verset 3. Elle décrit un semeur, un agriculteur. Et il est dit ceci, verset 4, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, donc pour planter des graines, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et ils la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Quand le soleil fut apparu, elle fut brûlée, elle sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8, enfin, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et il conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez certainement ce que Jésus voulait dire, mais ses propres disciples, qui l'entendaient sans doute pour la première fois, eux l'ignoraient. Ils étaient déconcertés et un instant plus tard, ils se retrouvent à nouveau en privé avec Jésus et ils lui ont demandé une explication de cette parabole. Et remarquez l'explication de Jésus dans la parabole. Il parle donc d'un agriculteur, un semeur, qui sème des graines, et il compare cette semence à l'œuvre de Jésus-Christ et à son Église. La semence, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et voici maintenant l'explication textuelle de Jésus. Il leur dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, autrement dit le diable, l'adversaire, l'archange déchu, Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il n'y a aucune production, aucune compréhension. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est là que nous voulons être, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Nous vivons encore à une époque où l'esprit du mal sature l'air de ses mauvaises pensées. Et cela, bien sûr, dure depuis déjà maintenant un moment, mais nous gardons bon espoir, car heureusement, il n'en sera pas toujours ainsi. En attendant, nous savons que le mal règne parmi ceux qui entendent le message de l'Évangile. Il y a ceux qui, malheureusement, permettent à ce mal de dominer leurs pensées. En conséquence, c'est là, c'est dans ce premier cas, que cet esprit du mal, qui n'est nul autre que l'adversaire de Dieu, l'ennemi de l'humanité, l'archange ancien Lucifer, cet être extrêmement puissant qui, à la tête de ses démons, est capable de saturer l'air de toutes sortes d'attitudes, de rébellions, de meurtres, de destructions, et plus insidieusement encore, à tromper, à induire les gens en erreur. Et ici, il nous est dit dans le texte, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et donc là, on voit que la compréhension est donc brouillée, avant même que la bonne parole puisse commencer à être assimilée et à germer. Et parmi ceux qui se rendent particulièrement vulnérables à ce mal, se trouvent ceux qui consultent précisément les esprits démoniaques. Qu'il s'agisse de la magie blanche, de la magie noire, peu importe tous ces artifices, les chamans, les sorciers, les diseuses de bonne aventure, les voyants, les cartes de tarot, les planches Ouija, la chiromancie, les horoscopes, j'en passe et des meilleurs. Si j'ose dire, toutes ces techniques éloignent les gens. Il faut faire très attention à ces choses. Ces choses éloignent les gens de la sagesse de Dieu. Elles sont l'ennemi véritable du chrétien. Rappelez-vous de l'exemple du roi Saül. Saül qui a suivi ce chemin qui est pourtant, il avait défendu lui-même. Il a connu de terribles tourments. Il voulait connaître l'avenir. Le chrétien ne doit jamais inviter en lui de telles prédictions. Des prédictions trompeuses, parfois très séduisantes, ayant l'apparence de la vérité, mais basées sur des mensonges. Ce sont des portes ouvertes aux esprits démoniaques. Donc faisons très attention, n'allons jamais dans cette direction, ne touchons pas à ces choses. Et puis d'autres ont une réaction plutôt différente. Dans la parabole, il est dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Il comprend. Il y a déjà un progrès. C'est déjà mieux. Mais il n'y a pas, malheureusement, de réelle conviction. Il n'y a pas de conviction. Dès que le message crée une difficulté, un conflit dans leur vie, eh bien, ils préfèrent abandonner les choses. Et puis, il y a aussi ce troisième groupe d'appelés. Eux aussi ont compris le message. Ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à faire le nécessaire, mais il y a eu peut-être aussi quelques tests, quelques épreuves auxquelles ils ont résisté. Très bien. Au fil du temps, malheureusement, d'autres soucis sont venus se greffer dans leur vie. ils ont eu des préoccupations, que sais-je, que s'est-il passé? Jésus les appelle, ces préoccupations, les soucis du siècle, la séduction des richesses. Ils ont négligé d'accorder à l'appel de Dieu, cet appel inouï, merveilleux, le temps et l'intention nécessaires à son épanouissement. Il leur fallait mettre Dieu à la première place. Ils ont mis quelque chose, au contraire, au-dessus de Dieu, que ce soit la gloire, les richesses, que ce soit la bonne réputation, que sais-je, ils se sont fait pour but dans leur vie de mettre ces choses au-dessus de Dieu. Ils n'ont pas réservé à Dieu la première place dans leur vie. Et puis enfin, le quatrième groupe, c'est le bon, c'est celui auquel nous désirons tous évidemment appartenir, celui des fidèles qui permettent à cette semence initiale de pousser et de fructifier en eux. Ceux qui, une fois appelés, choisissent de suivre fidèlement la voie de Dieu. En d'autres termes, nous voyons que tout le monde, aujourd'hui, n'entend pas l'évangile du royaume de Dieu d'une façon durable. Et parmi ceux qui l'entendent, tous ne le comprennent pas. Et parmi ceux qui le comprennent, tous ne l'acceptent pas jusqu'au bout. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Entendre, comprendre, accepter. C'est cela, croire en Jésus-Christ. C'est cela. C'est bien plus que croire en l'existence de Jésus. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques l'écrit lui-même dans Jacques chapitre 2, verset 19. Souvenez-vous, il fait cette déclaration. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ils tremblent. Mais il dit au verset 18, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Autrement dit, il faut agir. Croire en Jésus-Christ, être un vrai chrétien, c'est cela. C'est entendre, c'est comprendre, c'est accepter, et nous pourrions ajouter avec l'apôtre Jacques, c'est aussi agir. Agir en conséquence. C'est la foi par les œuvres. Donc à ce niveau, il nous faut bien réaliser que Dieu n'ouvre pas l'esprit de tous à la vérité en même temps, le même jour, au même moment, à la même époque. Dans toute l'histoire humaine du passé, depuis les temps immémoriaux, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut que tous ses enfants soient sauvés. Des milliards d'entre eux n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce n'est donc pas la seule période de salut, aujourd'hui, qu'il y aura. De toute évidence, la Bible révèle que Dieu possède effectivement un plan bien articulé de façon à ce que toute l'humanité puisse être sauvée. Regardons un instant comment les premiers membres de l'Église ont répondu à l'appel de Dieu. Il y avait en effet un autre exemple de l'appel de Dieu à une partie seulement de la population. Souvenez-vous, le jour de la Pentecôte de l'an 31 de notre ère, dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit fut donné aux disciples, beaucoup de ceux qui écoutèrent le sermon de l'apôtre Pierre en ont eu le cœur touché, en ont eu le cœur brisé. Ils furent attristés et ils devinrent repentants avec ce désir de changer. Ils étaient conscients que leur péché avait nécessité la mort du Sauveur de l'humanité, le sacrifice de Christ. Et notez leur réponse, il leur dit, après avoir entendu cela, ils furent vivement touchés. Donc ils se repentent. Au fond de leur cœur, ils savent qu'ils ont effectivement mal agi. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ils sont à la recherche d'une solution. Dans Actes chapitre 2, verset 37. Et ceci est d'une importance cruciale. Le véritable repentir exige en effet que la personne agisse en fonction de la connaissance qu'elle reçoit. La conversion, c'est bien plus qu'une réaction purement émotionnelle, une réaction du moment. Et l'apôtre Pierre répond, il leur dit, repentez-vous, autrement dit, changez de vie, ayez votre vie transformée, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu possède ce plan d'appel magnifique, les uns après les autres. Dieu a appelé environ 3000 personnes à son église, dans son église, ce jour-là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, nous est-il dit, verset 41. Et donc tout cela s'est concrétisé dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. 3000 personnes pour commencer ici environ à l'issue de la fête de la Pentecôte. Mais de toute évidence, parmi ceux qui ont entendu l'appel ce jour-là, oui, il y en avait une proportion qui n'ont pas répondu positivement en se repentant et en se faisant baptiser. Beaucoup d'autres parmi la grande foule présente avaient cependant entendu l'appel. Effectivement, ils ont entendu cet appel, mais ils ont choisi de ne pas y répondre. Et puis, plus tard, au chapitre 4, nous voyons que le dénombrement augmente, n'arrête pas d'augmenter, il s'élève alors à ce moment-là à près de 5000 convertis, plus de 5000 convertis. Nous comprenons donc que Dieu appelle les gens par étapes, les uns après les autres, les groupes après les groupes. L'idée que Dieu n'appelle pas tout le monde aujourd'hui, cela peut sembler étrange, contraire à ce que nous avons pu entendre dans le passé au sujet de l'appel de Dieu. Mais comprenons bien que dans son immense sagesse, oui, Dieu procède par étapes. Dieu possède donc ce plan, un plan bien articulé, bien prévu, parfaitement illustré dans le descriptif spirituel de ces fêtes, les fêtes de Dieu, que nous voyons décrites dans Lévitique chapitre 23, et telle que nous l'expliquons d'ailleurs le plus clairement possible dans nos croyances fondamentales. Là encore une fois, reportez-vous au lien sur cette page. Il est extrêmement important de bien comprendre cet aspect majeur du magnifique plan de salut de Dieu. Dieu écoute nos prières. La Bible montre même que parfois Dieu infléchit sa décision. Mais la décision finale de l'appel, c'est toujours Dieu qui la prend. Elle est la prérogative de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Mais cependant, malgré tout, Dieu reste toujours attentif à nos supplications. Et parfois, nous avons le bonheur de voir que Dieu nous répond. Oui, il fait grâce aux humbles, nous est-il dit dans la parole de Dieu. Ne l'oublions jamais. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, je lirai la traduction de la Bible Osterwald, Dieu dit ceci, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra, c'est Dieu qui parle, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc voilà ce que Dieu déclare, sa volonté sera faite. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, Paul, apôtre, confirme que les élus dont nous parlons sont saints et bien-aimés, encore une fois. Bien-aimés de qui? Bien-aimés de Dieu, bien sûr. Déclarés saints par qui? Déclarés saints par Dieu, et non pas par un homme. Seules certaines personnes entendent l'appel de Dieu aujourd'hui au cours de leur vie. Lorsqu'elles répondent à cet appel par un repentir sincère, c'est-à-dire par un changement de conduite, comme je l'expliquais, un changement de conduite qui plaît à Dieu, elles sont effectivement sélectionnées par lui selon son plan. C'est le moment pour elles. Elles sont choisies par Dieu pour recevoir son Saint-Esprit aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas appelés plus tard demain. Donc c'est à notre époque, c'est cette réception du Saint-Esprit qui est doublement manifeste. Premièrement, elle se manifeste par une compréhension efficace, je l'expliquais, du sens, de la profondeur de toute la parole de Dieu, à travers la merveilleuse interaction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout le panorama biblique complet du plan de Dieu devient clair comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche. Et puis, deuxièmement, le Saint-Esprit se manifeste chez la personne par une capacité exceptionnelle à obéir à Dieu, une capacité surmultipliée dans l'obéissance. Les choses deviennent beaucoup plus faciles. ce qui semblait impossible devient possible. Vaincre les tentations, vaincre également les mauvaises habitudes, voire même vaincre les addictions. Oui, c'est possible avec la puissance de Dieu. L'une après l'autre, toutes ces forteresses spirituelles tombent. Elles sont vaincues. Nous les pensions imprenables. Nous pensions qu'elles ne résisteraient toujours et que nous ne pourrions jamais les vaincre. Eh bien voilà, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, ces choses deviennent possibles. Paul, par exemple, dans son épître, sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, 2 Corinthiens 10, 5, écrit ceci, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » C'est beaucoup plus puissant. Il dit « Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Pour renverser des forteresses. Il continue en disant « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà la puissance de l'appel de Dieu. Voilà la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force de caractère pour obéir à Dieu, mais aussi l'intelligence et la sagesse. Alors, comment savoir si Dieu nous appelle? Comment savoir si Dieu vous appelle et que vous êtes réellement appelé à devenir chrétien, ici et maintenant, aujourd'hui, et à suivre Jésus-Christ, à lui donner votre vie et à le laisser vous changer pour que vous deveniez vraiment son frère ou sa sœur? Voici une liste de 8 points que je souhaiterais vous donner et qui vous aidera, j'en suis sûr, à répondre à cette question. Est-ce que Dieu m'a appelé? Premièrement, est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel pour le salut de la peine de mort que j'encourais, pour le péché, pour la transgression des lois divines? Deuxièmement, est-ce que je comprends la Bible lorsque je l'étudie? Troisièmement, est-ce que j'ai commencé à développer une relation régulière et suivie avec Dieu par la prière, jour après jour? Quatrièmement, est-ce que je reconnais que, oui, parfois, j'ai eu une inclination naturelle à pécher, à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu attend de moi? Je suis encore faible. Nous sommes tous pécheurs, encore. Tant que nous sommes dans la chair, nous sommes tous pécheurs. Nous avons besoin de continuer à faire des efforts pour sortir de ces tendances. Cinquièmement, mon esprit a-t-il changé au cours de ce processus? Est-ce que je commence à littéralement aimer la loi de Dieu, aimer les commandements, afin bien sûr de leur obéir, d'obéir à Dieu, et d'observer ce que Dieu me demande d'observer, et d'apprécier les bénéfices que j'en retire, évidemment. Est-ce que j'ai cette paix en moi que Dieu promet? Est-ce que j'ai tout ce fruit de l'esprit que Dieu promet? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la gentillesse, la maîtrise de soi, la tempérance. Est-ce que j'ai toutes ces choses? Est-ce que je mets en pratique la connaissance que j'ai acquise dans la Bible? Est-ce que je m'efforce d'obéir à Dieu dans tous les domaines de ma vie, tout en découvrant et en comprenant comment Dieu veut que je vive? Et enfin, huitièmement, est-ce que j'ai découvert cette soif que plus j'apprends, plus je mets en pratique les vérités bibliques, plus j'ai ce désir en moi, plus j'ai envie d'en apprendre davantage? Est-ce que j'ai cette soif de la parole de Dieu? L'appel de Dieu, qui est en fait la première prise de conscience de ce besoin de changement personnel, eh bien cela commence souvent aussi par la découverte d'un élément de la vérité divine dans les Écritures saintes. Je peux vous dire que pour moi, c'était l'observance du sabbat. Le jour du sabbat, eh bien, je ne pouvais plus faire de sport. C'était un jour de repos dédié à Dieu. J'étais un gros amateur de rugby, si j'ose dire. Eh bien, c'était terminé pour moi. Je ne le regardais même plus à la télévision le jour du sabbat, bien sûr. C'est un jour consacré à Dieu. J'ai dû tirer un trait, j'ai dû faire un sacrifice. C'était une question pour moi et ça a été un déclencheur. Dans l'Église de Dieu, nous comprenons qu'avant de venir à Jésus-Christ, une personne doit être d'abord attirée par le Père. « Nul ne peut venir à moi, dit Jean 6, verset 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai, dit Christ, au dernier jour. Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Mais c'est lui qui détermine l'époque à laquelle son invitation sera offerte à telle ou telle personne. Alors, bien sûr, si Dieu ouvre votre esprit à son mode de vie, il est d'une importance vitale que vous lui répondiez, parce que si tel est le cas, alors c'est votre chance. C'est votre opportunité, ici, maintenant. Je souhaite de tout cœur que ce serment vous aura été utile, surtout si vous faites vos premiers pas dans la foi, que vous ressentez cet appel irrésistible de Dieu. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec nos ministres, si vous ressentez le besoin d'une rencontre en tête-à-tête. Nous sommes à votre service. En attendant ce moment, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de journée de sabbat, en supposant bien sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être samedi chez vous, et qui, bien entendu, c'est le jour d'adoration et de relation avec Dieu. Je vous dis à très bientôt.